Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur de Radio BLV sur celles et ceux qui font le territoire et plus par Sylvie, Karina et Mégane. Bonjour Karina.
Bonjour Sylvie.
Et bonjour Mégane.
Bonjour Sylvie.
Heureuse de vous retrouver en ce mardi 1er juin avec un certain goût d'été. Alors, au sommaire de cette locale.
Alors, au sommaire, aujourd'hui à 14h, la mission locale du territoire valentinois va signer une convention avec l'association Nos Quartiers ont du talent. Nous allons donc en parler avec Régis Poncic et Karine Trumpf. Régis qui est directeur de la mission locale et Karine qui est responsable activité jeune. Ensuite, on écoutera Emeline Chalery qui est déléguée régionale de Nos Quartiers ont du talent. Et en troisième partie d'émission, après le travail, les loisirs, Boris Transine nous fera glisser avec le deuxième Skate Kids qui se déroulera samedi à Cré. Boris, dont on n'en a pas de nouvelles, on espère qu'il sera parmi nous. Et puis, comme d'habitude, des infos et des brèves locales.
Alors, comme tu le disais, Karina, effectivement, grande journée pour la MLTV. Et on accueille tout de suite Régis et Karine. Bonjour, bonjour à tous les deux. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Oui, on vous entend bien. Et bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, nous, on vous entend pas très bien, par contre. Voilà.
Voilà. Alors,
c'est
mieux. Bonjour.
Là, c'est beaucoup mieux. Donc, bonjour, bonjour à tous les deux. Et oui, je disais une journée particulière. Puis, on vous prend vraiment. Vous avez accepté de jouer le jeu, de vous prendre complètement à chaud, puisque c'est d'ici une heure et demie, en gros, la signature de cette jolie convention de partenariat avec Nos Quartiers ont du talent. La mission locale n'arrête pas, en fait. Elle a une activité et une actualité incroyable, parce que depuis l'aménagement au 333, ça fuse dans tous les sens.
Oui, on essaye pour être au plus au service de nos concitoyens. Et effectivement, rien que la semaine dernière, nous avons signé une convention avec le Lions Club de Guy-Engrange et Saint-Péret pour aider à faire des jobs dating, des simulations d'entretien. Mmh. Et tout cela pour permettre à nos jeunes d'être mieux armés pour aller sur des entretiens. Et là, de nouveau, cet après-midi, on va signer une convention afin de permettre de positionner avec Nos Quartiers ont du talent des mentors auprès de certains jeunes qui seront bien accompagnés par cette forme de parrainage pour leur permettre d'être mieux insérés et donc de trouver un emploi.
Alors effectivement, ça on en parlera tout à l'heure avec Emeline qui va tout nous raconter, tout nous dire sur Nos Quartiers ont du talent, qui est une très belle association qui fonctionne très bien, parce que ça c'est formidable quand on a le recul, ça fait une dizaine d'années, donc il y a le recul déjà des premiers jeunes qui sont passés par cette association. Pour vous, mission locale, parce que c'est vrai que souvent on pense à jeunes en difficulté, à tous les niveaux. Mais la mission locale suit aussi bien des jeunes qui sont, qui sont en perte de repères scolaires et autres, que des jeunes qui sont justement très diplômés, mais qui ne trouvent pas d'emploi. Vous n'avez pas de catégorisation de jeunes que vous pouvez suivre.
Exactement. La mission locale accompagne tous les jeunes. Tous les jeunes de 16 à 25 ans sont en capacité de venir à la mission locale pour n'importe quelle raison. Hein. Ça peut être sur le volet emploi, recherche d'apprentissage, envie de se reconvertir, parce que même à 25 ans, on peut avoir envie de changer de domaine de métier. Tous les jeunes sont les bienvenus à la mission locale. Ils seront accompagnés par un référent unique donc qui sera sur leur parcours. Et voilà, le but, c'est vraiment de leur donner les outils, de leur permettre de sortir sur une insertion professionnelle. Donc c'est vrai qu'on a des jeunes décrocheurs scolaires, mais on a aussi des jeunes donc qui seront présents cet après-midi, qui peuvent avoir des bacs plus 2, plus 3, voire même jusqu'à bac plus 5, qui recherchent encore de l'apprentissage ou qui recherchent tout simplement un emploi.
Et tu disais, Karine, référent unique, et ça, je pense que c'est vraiment très, très, très important de le dire et de le redire, que si vous êtes, si vous avez voilà, entre 16 et 25 ans, vous voulez avoir un accompagnement, à la mission locale, vous aurez un interlocuteur ou une interlocutrice, et vous ne serez pas noyé dans une espèce de dédale de chemin compliqué.
C'est exactement ça, en fait. On évite le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui participent sur un même accompagnement. On dit souvent, en fait, que le jeune doit nous dire les informations une fois. Une fois pour qu'après, puisse se créer la confiance, puisse se créer le partenariat, parce que c'est aussi un partenariat avec le jeune. Donc, si on le connaît bien, ça sera toujours beaucoup plus facile de pouvoir lui proposer l'offre de service la plus adéquate.
Alors pour ça vous vous entourez donc comme là pour avec nos quartiers ont du talent, vous vous entourez de différentes structures qui vont vous permettre d'être relais ou qui seront elles-mêmes relais de dans cet accompagnement des jeunes. Comment ça fonctionne la mise en place de partenariats de cette nature? C'est vous qui allez vers les structures ou ce sont les structures qui vous démarchent?
Alors, une vieille expression militaire disait les deux, mon général. Mais dans les faits, comme nous sommes service public de l'emploi, on est défini, alors c'est un barbarisme, en tant que assemblier et ensemblier. C'est-à-dire que si nous n'avons pas les dispositifs en interne pour répondre à la juste demande de quelqu'un, eh ben, on va se tourner forcément sur les associations en se trouvant sur notre secteur, notre territoire, voire au-delà. Et donc, forcément, on se doit de bien connaître tous les acteurs et de pouvoir interagir avec eux. Là, à l'heure actuelle, nous sommes situés au 333 avenue Victor Hugo. Nous avons, par exemple, la plateforme emploi qui est au-dessus de, sur l'étage au-dessus. Donc, on peut solliciter la plateforme emploi si ça correspond, notamment au niveau des clauses sociales, par exemple. À un autre niveau, si on veut faire du parrainage, vous avez parlé tout à l'heure de NQT, mais il y a l'Association nationale des directeurs ressources humaines qui vient aussi s'associer à nous, et c'est forcément sur sollicitation. Et bien sûr, on sollicite les entreprises pour pouvoir faire avec eux des job dating et permettre de faire le lien. En fait, on essaye de lever tous les freins qui ne permettraient pas à quelqu'un de pouvoir démontrer qu'il est capable, et ça j'en suis persuadé, la plupart des personnes, voire 99%, sont capables de s'insérer dans le monde du travail plus ou moins facilement, mais sont capables de s'insérer. Et le plus gros des freins, la plupart du temps, c'est le manque de confiance qu'ils ont en eux. Et si on arrive à leur démontrer qu'ils sont capables d'être acteurs et que c'est pas qu'une question de diplôme ou c'est pas qu'une question de positionnement ou de vie, ce qu'ils ont vécu avant, on a gagné. Parce que généralement, les entreprises sont très satisfaites de voir arriver les jeunes, quel que soit leur parcours, avant de venir jusqu'à eux.
Alors, est-ce qu'on peut dire que la mission locale joue aussi un rôle d'orientation, de conseil à l'orientation? C'est pas déconseiller, vous n'êtes pas déconseiller et conseillère d'orientation, mais est-ce qu'il y a quand même malgré tout cette notion?
Tout à fait, parce que c'est défini depuis 1982 et le rapport Schwartz qui a défini notre action au tout début. Il y a quatre grands piliers, c'est l'orientation, la formation, la levée des freins et l'autonomie, et l'emploi. Donc, dès le départ, on a bien défini que le travail de diagnostic et d'accompagnement, alors je dis bien diagnostic, c'est pas le conseiller qui diagnostique la personne, c'est un diagnostic qui est partagé. Un échange, et à partir de cet échange, on peut définir comment on va mettre en œuvre l'accompagnement. Et l'accompagnement avec un objectif final, qui est l'emploi que la personne souhaite, et avec bien sûr des phases, et que ces phases passeront par cette orientation, peut-être une formation, peut-être un emploi qui permettra d'attendre tant que la formation n'est pas aboutie, et ensuite, bien sûr, l'emploi qui peut correspondre aux besoins de la personne et bien sûr aux besoins du territoire et des entreprises.
C'est important de le rappeler, que même si on est en questionnement aussi par rapport à cette orientation, on peut venir vous voir. J'imagine un gamin qui sort du bac et qui a envie qui sait pas trop où il va parce que il y en a de plus en plus qui se posent de vraies questions. Alors il y a encore une fois le métier de conseiller d'orientation, c'est une chose. Mais il peut venir à la mission locale pour avoir un panel peut-être pas plus large, mais en tous les cas un peu différent.
Tout à fait. Sur notre territoire, on a 23 communes, on a regardé les chiffres INSEE, on est à peu près une volumétrie de 18 000 jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Mmh. À ce titre, l'année dernière, nous avons reçu 2166 jeunes.
C'est énorme. Donc,
C'est énorme. C'est énorme. Et certains sont venus juste une fois pour se dire, mais je voudrais faire la CMU, je ne sais pas comment ça marche.
J'ai besoin d'un coup de main.
J'ai besoin d'un coup de main, et après, on est très content. C'est toujours très satisfaisant de savoir que quelqu'un a trouvé un emploi et qu'il ne revient plus nous voir. Mmh. Il peut revenir nous voir pour nous donner des nouvelles. Mais notre travail, ce n'est pas de les garder captifs, c'est de les accompagner leur épanouissement personnel.
Bien sûr. Alors, on va terminer notre entretien, puisqu'ensuite on va parler donc plus particulièrement avec Emeline de nos quartiers du talent. Mais juste des petites nouvelles, c'est que depuis que vous êtes installée au 333, est-ce que toutes les équipes voient vraiment un confort de travail et puis une efficacité finalement accrue de par le fait d'avoir la concentration de différents services au même endroit?
Alors, en interne même, il y a un peu plus de 2 ans, nous étions sur 3 sites, rien que la mission locale. Ouais. Donc là, déjà, les équipes de la mission locale se retrouvaient tous ensemble au même endroit, c'est une plus-value assez phénoménale. Et avec les autres structures, forcément, c'est facilitateur, parce qu'au 333, vous avez un réseau qui est mis en place, il y a des permanences qui sont faites par différents acteurs, et forcément, ça facilite les échanges, la meilleure connaissance, s'il y avait besoin, entre les membres du réseau, et donc c'est une vraie, vraie plus-value. Il faut donc venir au 333.
Karina ?
Oui, bonjour à tous les deux. J'ai une question sur les conseillers. Je me demandais comment est-ce qu'ils étaient formés et sélectionnés ?
Alors, il y a très peu de temps, en tout cas il y a quelques années en arrière, il a été mis en place une formation en fait spécifique, une formation qui s'appelle CISP, conseiller en insertion socio-professionnelle, donc qui se fait dans plusieurs centres de formation. Donc, durant cette formation, ils vont apprendre en fait le métier de conseiller. Ils vont apprendre comment accompagner. C'est souvent, par contre, des gens qui ont déjà à la base un lien, une relationnel avec autrui qui est très fort, qui ont envie d'aider, de soutenir, d'accompagner et d'apporter aux gens en fait les clés, on va dire entre guillemets, de la réussite pour pouvoir y arriver. Donc, il existe aujourd'hui une formation. Mais il n'y a pas que les gens qui ont cette formation qui sont en capacité de devenir conseiller. C'est souvent l'expérience et les compétences acquises en fait dans un autre emploi qui peuvent les amener jusqu'à nous. Par exemple, on a sur l'année dernière, on a recruté plusieurs personnes qui étaient en reconversion et qui venaient des métiers de la santé. Parce qu'il y a un lien en fait. Les métiers de la santé, c'est aussi dans le don de soi, dans l'envie d'apporter du bien-être et d'accompagner. Et voilà, c'est des métiers souvent en fait qui arrivent, en tout cas, conseillés après les métiers de la santé.
Mais alors, juste une précision, c'est des métiers qui sont très particuliers et il ne faut pas avoir le souci de faire le bien ou le mal. Il faut avoir le souci d'être juste. Et c'est ça le plus dur, être juste par rapport à la demande et par rapport à la capacité pour laquelle on a à répondre à cette demande.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Et puis, on vous souhaite bonne signature donc, de ce nouveau partenariat avec Nos Quartiers ont du talent. Et puis on retrouve la mission locale à chaque fois qu'on a une nouveauté avec grand plaisir. Bravo en tous les cas du travail qui est fait. Bravo aux équipes.
Merci.
Merci. Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir. Au revoir à tous.
Et on retrouve donc maintenant Emeline Chalery, déléguée régionale Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, de Nos Quartiers ont du talent, avec laquelle la mission locale va signer ce partenariat cet après-midi. Bonjour Emeline Chalery.
Bonjour.
Et bienvenue, Emeline. Avant toute chose, déjà, NQT, Nos Quartiers ont du talent. Qu'est-ce qui se cache sous cette jolie appellation?
Donc merci pour votre accueil. Qui se cache derrière NQT, donc Nos Quartiers ont des talents. Je tiens à préciser que c'est au pluriel puisqu'il y a de multiples talents en fait par rapport à notre dispositif. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse, nous en tant qu'association, apporter un coup de pouce aux jeunes diplômés qui en ont le plus besoin. Mmh. On sait qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un haut niveau de diplôme à partir d'un bac plus 3 et plus ne protège pas toujours du chômage. Donc l'idée, c'est qu'on puisse apporter un coup de pouce à ces jeunes qui sont haut diplômés et qui ont peut-être besoin d'avoir un accompagnement complémentaire pour pouvoir trouver un emploi pérenne et à hauteur de leurs compétences.
Traditionnellement, on dit au plus on a de diplôme et au plus on a de chance de trouver un emploi. Et c'est un constat que vous avez fait qu'il y avait en fait une corrélation qui n'était pas si évidente que ça entre les deux.
Tout à fait, exactement. C'est vrai que nous, on s'est vraiment axé sur la notion du diplôme lié à notre histoire. Il y a une quinzaine d'années, quand on a été créé par notre président actuel, Yazid Pir, qui travaillait en fait au sein du MEDEF 93. Il travaillait donc beaucoup en lien avec des entreprises de son territoire, qui avaient donc beaucoup de difficultés à recruter et surtout à diversifier un petit peu leurs équipes. Et juste en face, tout simplement, de ces grandes tours, si je puis dire, il y avait donc certains quartiers qui étaient basés à Saint-Denis, qui regorgeaient de jeunes talents qui n'arrivaient pas forcément à accéder justement à l'information comme quoi des postes existaient et comme quoi ils pouvaient trouver leur place au sein de ces grandes entreprises qui étaient pourtant juste à côté d'eux. Donc en fait, c'est par un système d'une opération spéciale de mise en place de parrainage individuel. Donc cette opération prenait la forme de 200 jeunes haut diplômés qui ont été identifiés habitants au sein d'un quartier à Saint-Denis. 200 dirigeants, cadres expérimentés inscrits au sein du MEDEF 93. Et donc il y a eu des relations individuelles qui ont été créées, donc 200 relations de parrainage. Ça a été un retour très positif, puisque ça a permis vraiment de recréer en fait du lien social, du dialogue, de la compréhension mutuelle. Mmh. Et donc c'est de cette expérience qu'est née NQT. On s'est dit qu'il fallait dupliquer en fait tout ça et l'élargir, puisqu'il n'y avait pas que à Saint-Denis, au sein de ce quartier initial, qu'il y avait des besoins.
Quels étaient les problèmes qui ont pu être pointés sur cette incompréhension ou en tous les cas sur cette impossibilité de faire en sorte que ces jeunes qui étaient pourtant hautement diplômés arrivent à accéder aux postes en entreprise? C'était une méconnaissance des uns et des autres? Est-ce que c'est la méconnaissance des codes? Est-ce que c'est plein de préjugés qu'il faut faire exploser? C'était quoi exactement les problématiques qui sont ressorties?
Alors justement, ces problématiques, elles étaient multiples. Il y en a beaucoup que vous avez déjà, du coup, identifiées. Le principe, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des études, selon le secteur d'activité dans lequel on est, selon où est-ce qu'on fait ses études, en effet, on n'a pas forcément les mêmes codes. L'intérêt de notre dispositif NQT, nous, c'est de s'adresser aux jeunes qui sont issus de milieux sociaux modestes. Et typiquement, en fait, selon d'où on vient, on n'a pas forcément... toujours le réflexe de faire appel au réseau. On n'a pas forcément le réseau. Donc les leviers majeurs, nous, qu'on avait identifiés, ça pouvait être donc un manque de confiance en soi, un manque de... ou alors une méthodologie inadaptée dans la recherche d'emploi, même si en théorie, avec un bac plus 3 minimum, on sait faire un CV et une lettre de motivation. Parfois, cette cette candidature n'est pas toujours adaptée par rapport à l'objectif professionnel, au secteur ou à un métier ciblé. Deuxième élément très important, le levier sur lequel on essaie de les aider, donc c'est leur inexpérience tout simplement du marché du travail, comprendre un petit peu la réalité en fait du monde de l'entreprise, aller au-delà de certains a priori qu'il peut y avoir, et vraiment aller plus loin dans la compréhension des codes, pareil, hein, d'un métier, d'un secteur d'activité, bah, pour pouvoir réussir à faire mouche et bien puis à décrocher des entretiens. Et enfin, le dernier levier, en effet, c'est la notion de réseau professionnel. Souvent, les jeunes, encore aujourd'hui, hein, qui viennent vers nous, nous indiquent qu'ils n'ont pas de réseau, ce qu'on peut comprendre, puisque voilà, ils n'ont pas forcément cette notion. Après, on les rassure tout de suite en leur disant qu'ils ont eu la possibilité de faire de hautes études. Donc, à partir de là, leur premier niveau de réseau, c'est déjà donc leurs anciens collègues de promotion, leurs anciens maîtres de stage. Donc, charge à eux, après, de se rendre compte qu'il faut déjà activer ce premier niveau, et après, on va les aider à activer les second, troisième niveau.
Aujourd'hui, c'est indispensable, le réseau.
Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une bonne partie des offres qui ne sont pas forcément visibles. Et c'est d'autant plus vrai quand on est haut diplômé. Donc, tout l'intérêt, nous, c'est qu'on les laisse vraiment gagner en autonomie et devenir vraiment pilote des orientations de leur parcours professionnel.
Alors, comment ça fonctionne, ces binômes, puisque vous disiez au départ, ça a démarré avec 200 jeunes et 200 accompagnants et accompagnantes. J'imagine qu'il y a aussi des dames, la preuve en est, puisque voilà, c'est une dame qui nous parle aujourd'hui. Comment ça se passe, c'est la création de ces binômes et puis après la vie de ces binômes?
Alors, donc, pour ce qui est de la création, donc déjà, il faut savoir qu'à NQT, on a pas mal grandi, nous, depuis notre démarrage il y a 15 ans. Aujourd'hui, on a la chance d'être 70 permanents et on est présent presque partout en France, même dans certains dom-toms, sauf en Corse. Donc, à chaque fois, en fait, sur chaque territoire, il y a une petite équipe qui est présente et qui va s'efforcer de toujours être en veille active sur la dynamique professionnelle du territoire. On fonctionne à l'échelle de la région. Et donc, grâce à cette connaissance du territoire, on a en charge la mise en relation la plus pertinente possible entre nos bénéficiaires, donc les jeunes qui sont en recherche d'un poste à hauteur de leurs compétences, et notre réseau, tout simplement, d'entreprises ou de structures qui sont partenaires de l'association. La mise en relation se fait de manière totalement personnalisée, puisque pour mettre en lien un jeune et son futur mentor, on va avoir à l'esprit une adéquation en termes de domaine de compétences. Et le deuxième axe que nous aurons en tête, c'est vraiment une logique géographique. D'accord. Puisque parfois, certains jeunes ont besoin qu'on les aide un petit peu à défricher quelle est la dynamique en fait, du bassin d'emploi.
Très concrètement, je suis un jeune hautement diplômé. Qu'est-ce que va pouvoir m'apporter? Alors, on a vu les codes, etc. Mais ça se passe comment? Je rencontre mon mentor plusieurs fois, une fois. C'est des entretiens, c'est un coup de pouce très, très pratico-pratique avec une liste d'entreprises. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce rapport?
Donc, en effet, ça reprend pas mal d'éléments que vous avez indiqués. L'idée, c'est qu'on est sur des publics qui sont assez autonomes. Donc, nous, on va donner les coordonnées du parrain de la marraine au filleul. C'est vraiment au filleul de prendre contact avec son parrain, sa marraine, puisque ça donne vraiment une très bonne première impression professionnelle.
Bien sûr.
Et donc, les premiers axes de travail sur le parrainage. En moyenne, ce parrainage dure 6 mois, mais c'est une moyenne. C'est une formule qui est vraiment très souple, qui permet de s'adapter à la fois aux besoins, aux contraintes des jeunes et aussi à ce que peut apporter aussi aux contraintes du professionnel, du parrain de la marraine. Donc en effet, on va préconiser nous une première rencontre qui est assez cruciale puisque l'idée c'est que chacun puisse se présenter mutuellement, que chacun puisse dire pourquoi est-ce qu'il est là, c'est important, quel est son objectif en s'engageant auprès d'NQT et qu'ils puissent identifier ensemble les premiers axes de travail. Souvent, ils vont aborder donc la définition du projet professionnel. Est-ce qu'il est plutôt clair? Est-ce qu'il est à retravailler? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs options par rapport au parcours du jeune? Il y aura également un travail sur le fait d'affiner les outils et les méthodes de recherche d'emploi. Ils vont pouvoir aborder, bien sûr, le niveau de compréhension du marché du travail et des codes de l'entreprise. Et puis, enfin, aborder la notion du réseau. Donc, par rapport à ce premier échange, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'une fois qu'ils ont pu établir ces premiers échanges, c'est qu'ils se mettent d'accord tout simplement et qu'ils définissent ensemble quelles seront les modalités, la fréquence du suivi. On va préconiser notre première rencontre dans les locaux professionnels du parrain ou de la marraine, tout simplement parce que physiquement, d'aller à la rencontre l'entreprise, du professionnel, c'est très important. La posture physique est aussi importante que la posture mentale, sans se mettre de pression vis-à-vis d'un recrutement.
Oui.
Nous ne sommes pas capitaine de recrutement. On sait que le parrainage peut avoir des conséquences plus ou moins directes par rapport à cela. Mais l'idée, c'est vraiment que le jeune soit acteur par rapport à son, son projet. Et puis après, ils vont échanger en moyenne une à deux fois par mois. Ça va prendre de 1 à 3 heures par mois sur le temps du parrain, de la marraine, pour pouvoir échanger avec le jeune. Et les formats, bien sûr, ça va être des rendez-vous en présentiel. Bon, la visio a pris un essor assez considérable depuis un an.
Bien sûr.
Le format le permet, donc c'est vraiment facilitant. Et sinon, bien sûr, au niveau des canaux de communication, le binôme va voir ce qui leur convient.
On arrive un peu au bout de notre entretien, mais avant de vous quitter, j'aurais bien aimé savoir comment on devient mentor.
Alors, pour être mentor, tout simplement, si un professionnel est intéressé, ce qu'il faut, c'est avoir un minimum d'expérience professionnelle. 8 à 10 ans, c'est quand même important comme bagage. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir rencontré pas mal de situations professionnelles.
Bien sûr.
Et enfin, il faut faire partie d'une structure du coup, qui est partenaire de l'association. Donc, pour ça, il ne faut pas hésiter tout simplement, si la personne est sur le territoire, à prendre contact avec moi pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble sur quelle piste est-ce qu'on peut travailler ensemble pour aider au mieux ces jeunes.
D'accord. Donc, appel à tous les à tous les gens qui... Alors, oui, d'ailleurs, qui est-ce ? Parce qu'on a parlé de ça peut être un cadre, c'est pas nécessairement un chef ou une chef d'entreprise, ça peut être un ou une cadre d'une grosse entreprise.
Exactement. D'une grosse ou d'une petite entreprise. Donc, nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, un réseau d'entreprises, mais pas forcément que les grandes entreprises. C'est assez bien réparti, puisque l'idée, c'est de pouvoir réussir à s'impliquer quand même assez localement. La force de notre réseau, c'est que comme on est présent partout, aujourd'hui, on est en capacité de proposer des temps forts et du parrainage à la fois local et à la fois au niveau national. Donc, moi, j'ai quelques petites... quelques entreprises partenaires avec une seule personne qui est à la barre. Ça fonctionne très bien. On a des parrains marraines qui nous sont très fidèles, en moyenne à peu près 9 ans. Donc comme quoi, la richesse de l'expérience n'est pas que du côté des bénéficiaires,
mais
aussi beaucoup du côté des parrains marraines.
Alors effectivement, les bénéficiaires, on en a parlé un peu avec Régis Poncic tout à l'heure, donc c'était important de voir aussi du côté, du côté accompagnant, on va dire, parrain-marraine. Et vraiment, c'est de toute façon toujours des aventures humaines aussi, parce que j'imagine qu'vous avez suffisamment de recul pour voir aussi que une fois que ces jeunes ont trouvé un emploi, il y a des relations qui restent, j'imagine.
Tout à fait. Oui, nous, c'est tout l'intérêt. L'idée, c'est vraiment que NQT soit perçu comme un outil facilitateur, comme un coup de pouce à l'instant T. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, nous, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est ouvert depuis 2009. Et là, donc, l'avantage, c'est qu'avec le recul, on a quelques jeunes qui ont été accompagnés au démarrage du dispositif sur la région, qui sont en train de devenir mentors dans la région.
Et
donc, la
formidable.
Boucle est bouclée, c'est quelque chose de très stimulant et de très, 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 très engageant.
Écoutez, merci beaucoup, Emeline, de cet entretien. Et puis donc, on vous laisse pour aller signer cette convention avec la mission locale. Et donc, vous toutes et tous qui nous écoutez, n'hésitez pas à faire la démarche. En tous les cas, tout ce qui peut nous permettre de ne pas être seul et d'avancer correctement est bienvenu. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à tous. À bientôt.
À Valence, l'association des étudiants lance son projet Soleval. L'objectif est de centraliser les initiatives solidaires pour aider et accompagner les étudiants durant la crise sanitaire. L'ensemble des étudiants, quel que soit leur régime d'études et établissement de rattachement, peuvent bénéficier de ce projet. En écho à cette opération, la ville de Valence lance Épival, une épicerie solidaire qui permet aux étudiants aux revenus modestes ou sans revenus, après constitution d'un dossier, d'accéder à des aliments de première nécessité, de qualité, à des tarifs avantageux. En partenariat avec le diaconat protestant, le Centre communal d'action sociale apporte ainsi une aide concrète à un public en difficulté économique, fragilisé ou exclu. Des produits variés et de qualité sont donc mis à disposition à un prix très réduit dans un espace aménagé en libre-service. L'épicerie est ouverte aux familles, aux personnes âgées, aux jeunes, après attribution d'un droit d'accès et d'un montant par la commission des aides du CCAS. L'épicerie Épival est ouverte 4 demi-journées par semaine. Ses rayons sont alimentés par la banque alimentaire Drôme Ardèche, des producteurs locaux et des associations. Rendez-vous du mardi au jeudi de 9h à midi et le vendredi de 13h30 à 16h30 à Valence, aux 3 rue Faventines.
Merci Mégane pour cette information et bravo à la ville de Valence pour cette initiative, cette belle initiative. Alors après s'être restaurée, eh bien nous allons partir faire un peu de sport avec Boris Transine. Bonjour Boris.
Oui, bonjour Sylvie.
Boris Transine et le Cré Skateboard Club qui organise le deuxième Skate Kids ce samedi 5 juin à Cré. Alors avant de nous expliquer ce que ça va être ce Skate Kids, Boris, comment ça s'est passé depuis un an et demi, on va dire quasiment 2 ans, l'avis du skateboard club?
Alors, la vie du skate sur Cré, ça s'est plutôt bien passé, hein, on va dire, puisque c'est quand même un sport qui se fait en extérieur. Donc, on n'a pas trop subi la crise sanitaire à ce niveau-là.
Oui, vous avez réussi à continuer à pratiquer malgré tout.
Voilà, c'est ça, c'est que en plus, comme c'est une pratique qui n'est pas encadrée, où les gens peuvent, où les skateurs peuvent venir quand ils veulent, donc ça posait pas de problème. Hormis évidemment le couvre-feu, on pouvait pas skater la nuit. Mmh. Mais sinon, le skatepark de Cré fonctionne très très bien. Il y a énormément de monde. On l'a d'ailleurs agrandi cette année, puisque maintenant on a une piste de pump track en plus du skatepark, donc juste à côté. Ce qui est intéressant puisque ça permet comme ça d'avoir deux aires d'évolution, donc le skatepark de Cré qui reste accessible pour les skateurs, on va dire confirmés et un peu voilà les bons quoi, les grands, et puis à côté la piste de pump track qui s'adresse aux plus jeunes.
D'accord. Et le pump track c'est quoi? C'est une piste d'entraînement un peu plus facile, c'est ça?
Le pump track, le principe c'est que c'est une piste avec des bosses, des creux, des virages relevés. En goudron, ce qui permet de pouvoir pratiquer de la glisse avec plusieurs types de d'engins, hein, skateboard, trottinette, BMX, voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est moins difficile qu'un skatepark à aborder et voilà qui s'adresse vraiment aux plus jeunes.
D'accord.
Il y en a pas beaucoup hein, dans le coin. Je crois que dans la Drôme, on est les seuls à avoir une piste de pump track.
Très bien, bravo. Bravo au club. Et alors, ce Skate Kids 2 va se dérouler ce samedi. Et alors, c'est un petit peu particulier, puisqu'en plus, ce sera dans le cadre du premier festival de culture urbaine de la ville de Cré.
C'est ça. Donc, le Skate Kids, déjà, c'est particulier en soi, parce que c'est un des seuls contests de France. Je crois même que c'est le seul qui s'adresse exclusivement aux plus jeunes. C'est-à-dire que les participants devraient être âgés de 7 à 18 ans. D'habitude, ces skateurs sont plutôt, on va dire, relégués à la seconde, au second rang dans les contests habituels, puisque les têtes d'affiche, c'est plutôt les gros, les grands, enfin voilà, les adultes, etc. Donc là, c'est vraiment un contest qui est destiné aux enfants, pour qu'ils puissent être un peu eux dans la lumière. C'est les futurs skateurs de demain, c'est les futurs champions de demain, c'est ceux qui seront peut-être au JO en 2024. Donc il nous semble important que ces jeunes soient mis en valeur. Et puis effectivement, c'est aussi particulier parce que ça s'inscrit pour la première fois dans le cadre du premier festival Cré Culture Urbaine, organisé par la ville de Cré et son service culturel. Donc une belle programmation sur toute la journée avec donc le contest de skate, une fresque réalisée par des graffeurs de Lyon, un collectif qui s'appelle La Coulure, qui a invité des skateurs de Cré et des alentours à réaliser cette fresque. Et à 19h, le spectacle Long et le chemin par une compagnie de hip-hop qui s'appelle la compagnie Parallèle, qui est de Valence, il me semble.
Très bien. Donc, effectivement, une journée autour des cultures urbaines. Mais alors, plus particulièrement, ce contest, donc le Skate Kids 2, comme tu disais, la particularité, c'est que ça s'adresse aux jeunes. 7 ans, c'est effectivement tout petit, mais on peut, voilà, on commence même avant le skate, voilà, pour le plaisir. Alors, et c'est un vrai contest, c'est-à-dire qu'il y a une vraie compétition.
Ah, c'est un vrai contest. Oui, tout à fait. Les skateurs donc doivent s'inscrire. Il y a un tarif d'inscription qui est de 5 €. Ils seront donc tous identifiés. Il y a plusieurs catégories, donc 7, 11 ans, 12, 14 et après 15, 18 filles et 15, 18 garçons. Ils seront jugés par des juges qui sont affiliés à la Fédération française de skateboard, qui sont tous détenteurs de brevets de moniteurs de skate. Donc, il n'y aura pas de classement officiel fédération. Le classement ne compte pas pour des compétitions type championnat de France ou championnat régional, mais ça reste quand même une compétition avec un véritable classement, avec des juges entre guillemets professionnels puisqu'ils sont moniteurs de skate et puis des vraies récompenses là pour le coup voilà les kids qui vont venir participer au contest repartent avec des très très beaux lots grâce à nos sponsors voilà bon donc on a pas mal de sponsors hein, Volcom, Skate Deluxe, le Roof Club que les
Bourquins et Bourquaines connaissent bien
voilà c'est ça exactement. Un nouveau shop qui est sur Priva, donc FB Shop. Et puis on essaye aussi de faire participer les autres structures de la vallée qui proposent des activités de loisirs, donc du canoë, de l'acrobranche, le nouveau bike park VBC là qui est ouvert au-dessus de Chabeuil, qui vont offrir des bons aux enfants pour des activités. Donc voilà, les enfants vont être vraiment très gâtés.
ça, tu le vends bien.
Hein. Oui, et on aura peut-être, j'ai oublié de vous dire, on aura peut-être la venue de Riding Zone, l'émission des sports extrêmes de France Télévisions, qui devrait normalement venir faire un reportage.
Chouette, ah bah super. Donc vraiment pour les mômes, c'est effectivement c'est bien de valoriser la pratique, quand bien même ça reste, comme tu disais, c'est pas une compétition officielle. Enfin dire voilà, il y aura pas un classement officiel, mais ça reste une compétition professionnelle. Ouais. Voilà.
Oui, c'est une vraie compétition. Enfin, c'est une vraie compétition. Plus tard, peut-être qu'éventuellement, elle sera validée par la fédération pour de la détection, les championnats les championnats régionaux, les championnats de France. Là, pour l'instant, cette année, c'est pas le cas, mais c'est vrai que moi, on en a déjà parlé avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de skate. Et l'éventualité que ce contest devienne une étape de détection pour les championnats de France est envisagée. Ouais.
Et les championnats de France, d'ailleurs, ça commence à partir de quel âge? Il faut être majeur, c'est ça?
Les championnats de France, non, il y a plusieurs catégories. Hein, okay. Non, ça marche. Il y a aussi des kits. On en a un très bon là, qui est. Enfin, on en a plus dans la région. On a trois kids qui participent au championnat de France régulièrement. Hein. Il y a Clément Jourdan de Lyon, Nathalie Zing-Dinardo qui est de Grenoble, et puis notre fierté locale, c'est évidemment Antoinès qui est maintenant à 11 ans et qui a fini troisième au championnat de France l'année dernière, qui a fini premier au contest, c'est Teenage, c'est Amsterdam, un contest à Amsterdam, ou Rotterdam, je sais plus, non, c'est Rotterdam, oui, c'est ça, et qui finit premier régulièrement des championnats Auvergne-Rhône-Alpes de skateboard. Donc il a commencé très très fort, le petit Antoine.
Très bien. Donc rendez-vous de 11h à 13h pour l'accueil et l'inscription. C'est à côté du local du club. Comme tu le disais, bah, c'est 5 euros participation et adhésion au club comprise. Ouais. Ensuite, c'est de 13h30 à 17h la compétition. À 13h30 les entraînements, le free skate, les qualifications à 14h, la finale à 17h et à 17h30 les best tricks. Je suppose que c'est les meilleurs, c'est ça?
Non, les best tricks, c'est pas forcément les meilleurs. C'est, en fait, c'est sur un spot sur le skatepark et là, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, le truc, c'est de plaquer son meilleur trick. Alors, okay. Évidemment, bon, c'est sûr que les meilleurs s'en sortent en généralement mieux.
Ceux qui ont
encore
du
jus aussi, parce que voilà, mais oui. Tout le monde a le droit, il n'y a pas de problème. Et puis donc à 18h, le podium, voilà.
Et puis petit coup de main derrière.
Une pluie de cadeaux.
Voilà, et une petite coup de main derrière pour tout ranger, puisque
c'est
important aussi. Bah, écoute, en tous les cas, on vous souhaite d'avoir plein de monde. J'imagine que, toujours pareil, toutes les précautions d'usage, bien évidemment. Chacun les prend. Et puis, bonne chance à toutes celles et ceux qui vont concourir. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à emmener vos plus jeunes pour aller s'inscrire et effectivement peut-être qu'on les retrouvera d'ici 2024 au JO, sait-on ouais. jamais.
C'est ça, une belle journée en perspective. Ouais.
Merci beaucoup Boris.
Merci à vous, merci beaucoup, merci à la radio et puis bienvenue à tout le monde.
Avec plaisir, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Peut-être la bonne nouvelle.
Oui, bonne nouvelle, la loutre est de retour dans nos rivières, ce qui signifie qu'elle retrouve un cadre de vie accueillant et des proies à chasser. Les efforts menés depuis plusieurs années, comme l'interdiction de la chasse, la protection de l'espèce, une surveillance accrue de la qualité de l'eau, des aménagements, ont permis à cette espèce menacée de repointer ses moustaches dans nos cours d'eau. Veiller sur l'eau, c'est donc aussi protéger les habitats naturels.
Ouais, ça, c'est une chouette bonne nouvelle et
plaisir.
On va guetter les loutres. Allez, voilà, maintenant que l'été s'en revient, on va retourner dans les rivières et donc guetter les loutres et soyez prudents aussi de pas trop les enquiquiner. L'habitat naturel, que ça soit dans les jardins, que ça soit sur les bords de rivières, c'est aussi à respecter. On peut partager les espaces naturels, mais donc les partager, ça veut dire se respecter. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été là, Karina, Megan, comme tous les jours.
Plaisir.
On se retrouve, Karina, on te retrouve demain à 11h pour la radio dans le pédalo.
C'est ça, alors demain on va faire une émission sur la chasse, c'est une nouveauté, on n'a pas encore traité ce sujet-là, donc venez écouter si vous êtes curieux, on va parler du rôle écologique de la chasse, point d'interrogation.
Point d'interrogation. Et on se retrouve bien sûr à 12h15 pour la locale. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Bonne journée.